Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la stratégie logicielle libre de la MAIF et d'Enercop. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Chris Woodrow qui est conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe MAIF. Bonjour Chris.
Bonjour.
Et en studio avec moi, Julien Negros, administrateur système d'Enercop. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc l'objet de cette émission aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer pourquoi deux entreprises privées qui ont évidemment des structures assez particulières et ces personnes vont l'expliquer, ont mis en place une stratégie logicielle libre, où elles en sont et quels sont les projets à venir. Alors d'abord, une petite présentation personnelle et de vos structures rapidement pour poser un petit peu le cadre. Donc on va commencer par Julien Negros.
Moi je viens de la licence Colibre dont vous aviez reçu le créateur, Vincent Mabillot, ici même je crois, par téléphone il me semble. Et du coup après j'ai travaillé dans une SS2I plus classique où il y avait une démarche assez volontariste envers les logiciels libres, mais pas non plus, on était très loin de la priorité. Donc depuis 2 ans, je travaille chez Enercop parce que j'ai vu une offre comme ça d'administration système avec un système d'informatique qui était basé en majorité sur des logiciels libres et notamment au niveau du poste de travail, c'est qui m'a attiré le plus parce que ça se fait très peu finalement. Et voilà.
Et une petite présentation d'Enercop. Phrase.
Oui.
Et on y reviendra en détail après.
Enercop, c'est un réseau de coopératives un peu partout en France qui est un fournisseur d'électricité où tout le monde, particulier et professionnel, peuvent s'abonner pour avoir de l'électricité qui a la particularité d'être en contrat direct avec les producteurs. Beaucoup de structures font de l'énergie. De l'énergie verte, mais pas, enfin, comme nous où c'est du circuit court, très peu. Donc on est sous forme de coopérative.
D'accord. Alors même question pour Chris Woodrow de la MAIF.
Je travaille pour la MAIF, c'est la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, qui est une mutuelle d'assurance qui a été créée en 1934 et qui s'adressait majoritairement aux instituteurs à l'origine et qui s'est ouverte depuis. Donc mon parcours, c'est plutôt du côté développement logiciel. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le développement logiciel. Donc j'ai travaillé dans plusieurs sociétés ces dernières années. Et il y a quelques années, la route m'a mené vers la MAIF, à la fois pour la partie ingénierie logicielle et aussi architecture. Et mon travail à la MAIF nous a mené vers la mise en œuvre d'une stratégie open source qui est assez singulière. J'imagine qu'on va développer ça tout à l'heure.
Tout à fait, là c'était une présentation introductive. Alors j'ai noté d'ailleurs un truc qui est intéressant de convergence entre vous et puis même entre l'émission, c'est Enercop, il y a l'énergie militante, la MAIF, l'assureur militant, et vous intervenez dans Libre à vous, l'émission militante. Donc voilà, il y a la convergence et c'est évidemment pas la seule convergence. Alors premier sujet qu'on va aborder, la MAIF, comme l'a dit Chris Woodrow, c'est 1934, Enercop c'est 2005, je crois bien. Donc deux structures avec une histoire quand même différente, mais deux structures qui ont une démarche logicielle libre. Donc déjà, première question, à quel moment a été fait ce choix de cette mise en place d'une stratégie logicielle libre et pourquoi et pour quelles raisons? Alors on va commencer par Chris Woodrow de la MAIF.
Alors l'utilisation de logiciels libres à la MAIF remonte à plusieurs dizaines d'années. On utilise assez massivement Linux sur nos serveurs de production. Évidemment, on avait un historique qui était plus sur des systèmes propriétaires, mais on a assez rapidement bifurqué vers des solutions libres. Donc, on a encore quelques logiciels propriétaires qui résident, mais on a une stratégie quand même d'assez long terme sur le sujet. Après, la particularité qu'on a, je pense, c'est d'avoir une posture d'éditeur de solutions open source. Donc on édite depuis janvier 2018 des solutions open source que nous avons développé et qu'on utilise chez nous en production. Ça répondait à un vrai besoin chez nous et on s'est dit que ça pouvait être cohérent et que c'était une idée qui pouvait être intéressante de partager ces logiciels pour pouvoir les ouvrir à l'utilisation ou à la contribution vers d'autres sociétés, des particuliers, etc.
D'accord. Julien Negros, concernant donc Enercop, comment s'est mis en place cette stratégie ?
Alors, pour ça, alors moi je suis encore un peu frais dans la coopérative, mais je me suis renseigné auprès de l'un des fondateurs, Julien Noé, qui m'a dit que du coup, alors il faut savoir que Enercop c'est né en partie de Greenpeace, et dans cette entreprise, le DSI était très... très
au fait. Le DSI, c'est la direction système d'information.
Pardon, oui, c'est. Donc, oui, la personne qui gérait le système d'information était très au fait des logiciels libres et militant aussi du logiciel libre. Et il lui a dit que. Enfin, il lui a indiqué que ses valeurs étaient tout à fait en adéquation avec ce qu'il voulait faire avec Enercop. Et du coup, ça a commencé de manière assez lente, on va dire. Le début, jusqu'en 2013, il n'y avait pas réellement de DSI, en l'occurrence, de système d'information chez Enercop parce que c'était trop petit. Et c'était donc Julien Noé qui s'occupait de ça. Au niveau des postes de travail, ça restait du classique Windows. Mais par contre, ils allaient, quand ils avaient un besoin logiciel, ils allaient chercher dans le catalogue. Dans le catalogue Framasoft pour voir s'il y avait les possibilités d'utiliser et dès que c'était viable, un minimum possible, il y avait quand même la volonté de prioriser le logiciel libre. Et à partir de 2013, il y a une personne qui a été dédiée à la gestion de l'informatique, qui elle aussi une militante du logiciel libre, qui a voulu migrer le parc de postes de travail sous Linux. Alors vous avez parlé des serveurs tout à l'heure. Pareil, les serveurs sont bien sûr sous Linux, mais là il y avait aussi les postes de travail et on a aussi un ERP. Alors c'est un logiciel de gestion et de facturation qui, au début, la volonté c'était de libérer des briques qui auraient été développées en interne pour en faire profiter d'autres acteurs énergétiques. Dans les faits, ça s'est pas encore fait, mais bon, l'idée aussi c'est d'être pas être tributaire d'un éditeur et voilà.
D'accord. Alors, avant d'entrer dans les détails des contributions des uns et des autres et puis des retours d'expérience, sur les raisons de ce choix-là, donc côté Maïf, c'était quoi? C'était des raisons de coût, d'interopérabilité, de maintenance. Quelles étaient les principales raisons qui ont fait que finalement la direction a accepté d'aller dans une direction, dans un objectif de logiciel libre?
Ce qui est important, c'est de rappeler ce que c'est qu'une mutuelle d'assurance. Hein. Faut bien se souvenir que nos valeurs fondamentales sont sur l'indépendance, la désintermédiation, la responsabilité. Enfin, on a un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent d'une assurance classique. Et de fait, il y a une certaine logique à créer du commun. C'est-à-dire que le logiciel libre, par rapport à l'ADN de la Maïf, c'est quelque chose d'assez naturel. Si on prend une orientation et un regard un peu plus orienté vers l'informatique, et pour, la DSI, pour reprendre un gros mot qui a été prononcé tout à l'heure, le fait d'effectivement de pas avoir de dépendance ou de limiter au maximum les dépendances qu'on puisse avoir avec un certain nombre d'éditeurs logiciels paraît être quelque chose d'assez important. D'une part, sur les règles fondamentales que nous apportent les logiciels libres, à savoir pouvoir lire le code, exécuter le programme, modifier son contenu et le redistribuer, la plupart des éditeurs traditionnels ne n'apportent pas ce genre de choses. Et dans certains cas, on s'est retrouvé dans des situations où soit les éditeurs étaient rachetés et les solutions abandonnées, soit on n'avait pas la possibilité facilement de modifier le logiciel alors qu'on avait le besoin. Et donc le fait de se dire qu'une des façons de consommer de l'open source, c'est aussi de contribuer à l'open source parce qu'on a conscience que l'open source se base sur le fait qu'il y ait des contributeurs, ça a été quelque chose d'assez naturel et d'assez simple à vendre à notre direction informatique et notre direction en général. D'une manière générale, on n'y serait jamais arrivé sans la direction, sans le conseil d'administration. On a été beaucoup soutenus et c'est quelque chose qui est assez important pour nous.
D'accord. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur ce point, sur le soutien de la direction dans les entreprises ou même dans d'autres structures. Côté Enercoop, donc Enercoop a un statut de coopérative, société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que donc le choix du logiciel libre, quelque part, c'est aussi de la cohérence avec ce statut de coopératif?
Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est comme ça qu'on peut le défendre et c'est comme ça que ça a été à la base le choix. Coopérative, donc coopération. Il y a aussi la notion de transparence, de bien commun. C'est des valeurs que même mes camarades qui ne sont pas forcément très au fait des logiciels libres et de l'informatique en général se retrouvent dès qu'on en parle un petit peu, qu'on leur explique la démarche, ce qu'on essaie de faire. Et au niveau vraiment, enfin plus la direction stratégique d'Enercoop, dans notre première charte réseau, il était question de vraiment explicitement de l'open source. Alors j'ai pas l'extrait là parce que c'est plus la même. Et dans l'actuel, il y a plus la motion d'open source explicite, mais il est question de l'appropriation des enjeux énergétiques en mettant en bien commun les savoirs et savoir-faire intellectuels et industriels. Des choses qu'on retrouve tout à fait dans le logiciel libre.
Donc la mention logiciel libre a disparu, mais elle est intégrée dans cette phrase-là.
Oui, c'est ce que m'a défendu Julien Noé.
D'accord. C'est OK. Donc voilà, donc là on a compris donc que c'est côté Maïf, donc c'est à partir de 2018 et on va rentrer un petit peu dans le détail et puis Enercoop un peu plus ancien mais c'est un travail en cours. Donc on va parler un petit peu donc de la mise en œuvre de cette stratégie. Comment ça se passe? Déjà côté serveur, donc un petit peu comme Chris Woodrow l'a dit, globalement vous avez, si j'ai bien compris, vous avez principalement vos serveurs sur un système d'exploitation libre de type GNU Linux.
Oui,
c'est ça?
Tout à fait. Une Debian, pour ne pas la citer.
Une Debian. Donc ça, c'est un côté, on va dire, historique. Depuis le départ d'Enercoop, ou ça s'est fait au...
Alors, je crois bien que c'est depuis le départ, ouais. Il y a peut-être eu d'autres types de serveurs au début. Je sais que maintenant, dans notre parc, on n'en a qu'un seul qui n'est pas Debian et qui nous sert quand même à pouvoir maintenir des postes sous GNU Linux parce que ça nous permet d'avoir des bureaux à distance pour certains logiciels qui n'existent pas sous GNU Linux ou des besoins particuliers.
D'accord. Donc ça, c'est la partie, on va dire, quelque part, souvent la partie la plus simple, la partie serveur. Ouais. Parce que bon, les systèmes libres fonctionnent très bien. Il y a pas, contrairement aux postes de travail, il y a pas une interaction directe avec la personne utilisatrice. Donc la formation est peut-être moins compliquée. Enfin, il y a pas de formation souvent.
Tout à fait.
Et donc peut-être que sur la partie poste de travail, on va aborder cette question formation. Alors, donc avec Julien Negros, en attendant, on parlait un petit peu de la place du logiciel libre côté serveur, un peu l'historique de côté Enercoop, donc de Debian, GNU Linux, à peu près en partout. Je crois que c'est un peu la même chose côté Maïf. C'est une prédominance des systèmes libres sur la partie serveur.
Oui, tout à fait. Oui. On est plutôt côté CentOS, mais effectivement... On a du Red Hat aussi. Hein. Et,
d'accord.
Et donc, du coup, oui, il y a une prédominance des logiciels libres côté serveur.
Alors, comme je disais, c'est la partie, entre guillemets, peut-être la plus simple, parce que les systèmes libres fonctionnent très bien sur la partie serveur. Il n'y a pas de personnes utilisatrices directement, en tout cas, il n'y a pas de formation. Donc, la partie plus compliquée, c'est peut-être plutôt poste client, et on va venir avec... Après, avec Enercoop, avec une expérience là-dessus. Mais continuons avec la Maïf. Tout à l'heure, donc en introduction, vous avez dit qu'en 2018, vous avez, je crois, prononcé le mot d'éditeur de logiciels libres, si je me souviens bien.
Ouais.
Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que moi, j'ai découvert la Maïf, au-delà de la mutuelle d'assurance, évidemment, mais dans le monde du logiciel libre, je crois que c'était l'an dernier, quand vous avez reçu un prix donc au salon POS à Paris de la meilleure stratégie logiciel libre, et notamment donc la mise en libre d'outils que vous aviez développés en interne. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça, et quels sont les outils que vous avez développés en interne, en essayant de les rendre compréhensibles pour tout le monde, parce que je crois que c'est
bien
des
sûr,
outils
bien sûr.
Assez
ouais,
techniques
oui. Vers 2016, la direction de la Maïf a décidé de diversifier un petit peu son offre vers d'autres types de services en complément des services assurantiels. Et cette diversification a donné lieu à une expérimentation côté système d'information. On s'est dit, testons des nouvelles façons de faire et une autre façon de créer des logiciels. Et cette nouvelle façon de créer des logiciels, repartons un peu d'une page blanche pour créer ces nouveaux services à partir de ces nouvelles méthodes. Et de fait, on a, à partir de ce moment-là, développé des solutions, notamment qui permettent de gérer des API. Alors, utile que j'explique ce que c'est qu'une API.
Je pense, oui.
Donc, une API, c'est une façon de qui permet à deux logiciels d'interagir. Et à partir de ce moment-là, on peut, via un réseau informatique, donc permettre à deux ordinateurs qui sont distants d'interagir et de communiquer le plus simplement possible. Le problème, c'est que si on veut, on peut se fournir des services par API. Bon, c'est le cas d'un certain nombre d'API qui existent et qui permettent de récupérer des données, de souscrire à des services, etc. Et donc, on a créé une solution d'API management qui sert à sécuriser ces API, à faire en sorte de créer de la traçabilité. Parce que c'est assez important dans notre métier de savoir que c'est telle personne qui a fait l'appel et qui a souscrit à l'API. C'est de pouvoir avoir de la gestion de flux, ce qu'on appelle du throttling, à savoir permettre de faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'appels à un instant T pour éviter qu'il y ait soit des utilisations malveillantes, soit des utilisations involontairement malveillantes, parce que ça arrive parfois qu'on fasse une erreur dans la configuration de son client. Et à partir de ce moment-là, on a créé une solution qui permettait de faire ça. La deuxième solution qu'on a créée, c'est une solution qu'on appelle de feature flipping. Le feature flipping, c'est quoi? C'est ce qui permet à un service web en ligne d'activer à chaud une fonctionnalité. Donc ça, c'est les deux premières briques qu'on a libérées. Et puis, au courant de l'année 2018 et 2019, on a rajouté une solution de mise en œuvre de la GDPR. Cette solution, c'est la solution qu'on a mise en œuvre chez Maïf pour adresser la problématique de la GDPR, d'avoir gestion des consentements, demande d'accès aux données personnelles et demande de suppression des données personnelles, principalement. Cette problématique, on l'avait à l'échelle du groupe Maïf. Hein, je pense que vous imaginez qu'il y a énormément de... Enfin, on a énormément de bases de données, d'applicatifs divers et variés qui contiennent des données personnelles. Suite à ça, on a réouvert d'autres briques et la toute dernière qu'on a ouverte, c'était la solution de classification des mails entrants. À savoir, quand vous envoyez un mail à la Maïf, on peut avoir une quarantaine de personnes finales à qui adresser ce mail. On est parti du principe, il y a un certain nombre d'adresses qui existent, alors ça paraît idiot comme ça de dire... on a besoin de, on peut demander au sociétaire d'écrire à la bonne adresse. Néanmoins, quand vous avez un problème de fuite d'eau, par exemple, en général, vous prenez la première adresse sur laquelle vous tombez quand vous cherchez sur le web. Et de fait, on recevait énormément de mails qui n'étaient pas forcément aux bonnes adresses, et donc il y avait une nécessité de classer ces mails, les envoyer aux bonnes personnes, etc. Et donc, on a créé une solution qui s'appuie sur du machine learning et qui analyse le contenu du mail, essaye de comprendre le contenu du mail et en fonction de ça, envoie le mail au bon destinataire. Bien évidemment, vos mails sont toujours traités par un humain. C'est juste que pour faire en sorte que le mail arrive le plus vite possible à la personne qui va traiter ce mail. On a jugé que c'était intéressant de libérer cette solution parce que, d'une part, en français, il n'existait pas de solution efficace pour faire ça. Et d'autre part, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on offre beaucoup de visibilité sur la façon dont on traite les données et des utilisateurs. Voilà.
Ça offre de la transparence par rapport à vos sociétaires, par exemple?
Là, vous pouvez savoir, quand vous envoyez un mail à la Maïf, vous pouvez savoir la solution qui est utilisée pour le lire et pour le traiter, quoi.
D'accord. Avant de revenir votre expérience côté Maïf, je vais préciser aussi que quand vous parliez de GDPR, c'est donc en français c'est le RGPD, hein, c'est le Règlement Général de la Protection des Données. Julien Négros, côté Enercop, est-ce que vous aussi vous avez une politique de libération d'outils que vous développez en interne, ou est-ce que peut-être que vous ne développez pas spécifiquement d'outils en interne, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une politique de équivalente?
Alors non, faut savoir que peut-être juste pour contextualiser, là où je travaille, l'administration système, c'est on est un peu séparé du reste du pôle numérique qui s'occupe notamment du développement et de la gestion des données et on n'a pas forcément les mêmes vues sur ce genre de choses et historiquement, je crois qu'il y avait la volonté de le faire, mais ça n'a pas été fait. Donc nous, nos contributions, enfin la contribution d'Enercop au logiciel libre se fait de manière plus pécuniaire. Je pourrais développer plus tard, peut-être.
Ouais. On va développer plus tard. Je vais revenir juste sur la maïs, parce que j'ai une petite question par rapport donc à... Et après, on passera un peu au poste de travail aussi pour comparer. Est-ce qu'en libérant ces outils que vous développez en interne, vous avez d'autres objectifs, comme par exemple, vous espérez peut-être des contributions externes, par exemple de la recherche de bugs, vous espérez peut-être que ce soit réutilisé par d'autres structures, ou vous n'avez pas du tout cette recherche d'objectifs?
Ah bah oui, si on libère du code, c'est pour qu'il soit le plus réutilisé possible. Alors, on a pas mal de réutilisation de nos solutions. Hein. Si vous regardez un peu notre repo GitHub, on a eu notamment sur la solution de feature flipping dont je parlais tout à l'heure, on a eu une cinquantaine de contributions à peu près, de personnes extérieures. Ce qui est assez assez sympathique, c'est que non seulement on se rend compte, parce que moi c'est pas le premier logiciel libre auquel je participe. Enfin, avant d'être à la Maïf, j'ai déjà travaillé sur des logiciels libres en tant que contributeur. Et généralement, c'est un monde qui se voit assez peu physiquement. On communique beaucoup à distance. Et puis, moi, ça m'arrive régulièrement quand j'interviens dans une conférence, juste après le talk, d'avoir quelqu'un qui vient en disant « Ah, je suis machin !» Généralement, il y a un nom de... Il y a un
pseudo.
Donc, c'est fort sympathique. Par exemple, une des réutilisations qui me paraît assez intéressante, c'est Jens Posten, qui est un des plus gros quotidiens danois, qui est le journal qui avait publié les caricatures il y a quelques années, quoi,
ouais.
Et qui utilise les briques d'activation à chaud Maïf. Voilà. C'est le genre de contribution qu'on découvre au fil du temps. Avec quelqu'un qu'on croise et tout ça, parce que bien évidemment, dans la mesure où on va pas mettre de tracker sur les solutions qu'on libère, c'est difficile de savoir qui nous utilise vraiment. Après, je sais que il y a un certain nombre de sociétés françaises et étrangères qui nous utilisent et qui sont contents et qui participent assez fréquemment, qui contribuent à nos solutions.
D'accord. Là, on a parlé donc d'outils. Alors, les personnes qui vous écoutent ont bien compris que c'est des outils techniques permettant de rendre des services. Un point intéressant qu'on va aborder maintenant, avant de revenir plus globalement au sujet de la contribution, c'est celui du poste de travail. Parce que là, dans l'exemple d'Enercop, alors qu'il n'est pas du tout à le même thème d'échelle en termes de personnes qui travaillent dans les deux structures, mais une spécificité d'Enercop, c'est que vous avez une bonne partie, je ne sais pas à quel pourcentage, mais Julien Negros va nous le dire, de postes de travail qui sont équipés en distribution GNU Linux et en logiciel libre. Donc, est-ce que Julien, tu peux nous faire un petit point là-dessus, comment ça s'est fait et un retour d'expérience des personnes qui utilisent en fait?
Ça s'est fait à partir du moment où il y a eu une vraie direction des systèmes informatisés et la migration sous GNU Linux et donc maintenant on est faut savoir que les coopératives du coup elles sont indépendantes normalement à peu près et du coup c'est pas la même politique chez toutes les coopératives, mais nous au national comme on dit à Paris on est 130 personnes à peu près et c'est quasiment 100% des postes de travail qui sont sous GNU Linux. Il y a quelques exceptions pour diverses raisons. Mais oui, c'est du coup une distribution qui est dérivée de Debian, qui est préparée par notre prestataire Easter Eggs, que l'April connaît bien, avec qui on travaille très étroitement, et que je salue d'ailleurs. Donc c'est une Debian modifiée, distribution Enercop, parce que donc une distribution c'est finalement des choix logiciels, des configurations particulières, c'est plus que ça, mais c'est en gros c'est ça. Et donc cette distribution elle est installée sur toutes les machines à Paris, et sur je dirais une bonne moitié des régions, 50% à peu près des postes en région. C'est plus difficile de gérer ça à distance, mais on arrive à peu près à le faire aussi, grâce aussi à des outils développés par Easterix, et qui sont libres d'ailleurs, et, bien sûr. Alors des retours utilisateurs, c'est là que c'est très intéressant, parce que c'est une rareté, je ne connais pas vraiment d'exemple à notre échelle comme ça, et en plus on a alors je parle de distribution, mais finalement le plus important je pense c'est l'environnement de bureau. Là en l'occurrence nous on utilise GNOME Shell, donc ça veut dire que l'environnement de bureau ce sera la manière dont sera présenté les fenêtres, la manière dont on bascule d'un programme à l'autre, comment on le lance et tout ça, et auparavant quand je suis arrivé on utilisait XFCE, donc c'est deux approches assez différentes. importante et on a du coup dû accompagner au changement. C'est moi qui m'en suis occupé et j'en étais ravi. C'était tout exactement ça que je voulais faire depuis longtemps. Et c'était très intéressant. Donc on a fait ça individuellement parce qu'il fallait mettre à jour les postes de travail. Et aussi, on a fait des formations où on pouvait aussi présenter un petit peu ce que c'était qu'une distribution GNU Linux, les principes du libre, donc des personnes qui sont réceptives, mais qui ne sont pas forcément initiées. Et puis le retour, je pense que beaucoup de gens se l'approprient, des fois même plus que ce que j'aurais cru. Il y a quelques difficultés, des personnes qui ont du mal à s'habituer à avoir quelque chose de différent. On essaie d'adapter dans ce cas-là, par exemple mettre une barre des tâches, alors que dans DomShell il n'y en a pas normalement. On essaye de voir ce qui fonctionne moins. Après on a essayé aussi d'avoir des ordinateurs assez performants. On a mis à jour le matériel aussi récemment, donc je pense que globalement ils fonctionnent quand même très bien. Après c'est plus le choix des logiciels en eux-mêmes qui peut être un petit peu déroutant pour quelqu'un qui arrive de systèmes plus classiques et de logiciels plus usités, notamment en bureautique. Là, on en essaie de faire le maximum, c'est pas toujours évident et il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la formation. Mais comme tout le monde est un peu dans le même bateau, en tout cas à Paris, ça se passe plutôt bien. Les retours sont assez positif. Là, je me baserai pour ça sur une enquête qu'on a fait interne pour mettre en place une solution de bureautique collaborative, comme on peut avoir avec un des acteurs principaux.
Voilà, avec un acteur dominant.
Voilà. Je sais pas si on peut le citer pour se donner une idée. Bon, comme un Google Doc, quoi, ou un Office 365. Et donc l'idée, c'était justement, est-ce que vous voulez qu'on passe sur une solution un peu classique? Parce que comme c'est dans le navigateur, on n'est pas obligé de changer fondamentalement notre système de nos PC et nos OS, nos systèmes d'exploitation. Mais voilà. Et puis on avait des questions. Est-ce que vous êtes un peu à l'aise? Est-ce que vous êtes un petit peu sensible aux valeurs du logiciel libre? Tout ça, et on a eu moi j'ai été agréablement surpris des retours qui étaient assez positifs. On a eu du très négatif, mais très peu, et mitigé, et on a eu beaucoup de positifs. Donc je dirais que globalement, c'est pas évident, mais c'est positif.
D'accord. Sur cette note positive, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Nous allons écouter Just Imagine par Hungry Lucy. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune
93.1. Troubled time.
J'espère que vous avez apprécié cette magnifique chanson Just Imagine par Hungry Lucy, qui a en plus le bonheur d'être disponible sous licence libre CC BY SA, c'est-à-dire Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous parlons de la stratégie logicielle libre de la MAIF avec Chris Woodrow, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe MAIF, et Julien Negros, administrateur système à Enercop. Alors juste avant la pause musicale, on parlait du poste de travail et je voudrais là revenir sur un sujet qui est l'impact du choix du logiciel libre sur les équipes. Tout à l'heure, en introduction, Julien a expliqué qu'il a souhaité rejoindre Enercop parce qu'il savait qu'Enercop faisait du logiciel libre. Mais je voudrais poser la question à Chris Woodrow, MAIF. Comment a été vécu pour les équipes internes, donc les personnes du service notamment informatique, le fait tout d'un coup de se dire qu'on va, le code qu'on est en train d'écrire, on va le rendre public, on va le mettre en logiciel libre. Est-ce que ça a été bien perçu? Est-ce que c'est une source de motivation? Et seconde question qui est liée, est-ce que ça a un impact sur le recrutement, par exemple? Parce que je suppose que la MAIF a un recrutement au niveau service informatique. Voilà. Quel impact ça a sur les équipes internes? Chris Woodrow de la MAIF.
Une très bonne question. Pardon. Effectivement, il y a un impact très 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 vertueux quelque part parce que ma conviction en tant que développeur logiciel senior maintenant, d'ici à dire, mais c'est comme ça, c'est que les gens ne sont pas leur code et que il y a un certain détachement à avoir entre la personne et le travail et que plus on montre son code à un nombre important de personnes, plus, quelque part, on améliore ce code. À chaque fois qu'il y a un regard de plus qui se pose sur quelque chose qu'on construit, quelque part, on l'améliore. Ne serait-ce qu'en ayant des questions naïves, certaines fois, on avait avec une équipe avec laquelle je travaillais il y a quelques années, on faisait du croisement, c'est-à-dire que les développeurs back-end, c'est-à-dire tout ce qui est côté serveur, allaient régulièrement poser des questions et auditer le travail des développeurs mobiles. Et pareil dans l'autre sens. Enfin bon, et tout ça pour apporter un œil neuf et un regard neuf. Et donc ça, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que à partir du moment où on a dit aux gens, maintenant vous allez tout ce que vous allez développer, on va le penser logiciel libre. Donc ça énormément motiver les gens, le souci de bien faire, l'envie de bien faire et puis être vraiment partie prenante d'une stratégie d'ouverture de la société. Et en termes de recrutement, effectivement, la marque employeur c'est un impact plutôt positif sur la marque employeur, savoir que les gens comprennent ce qu'on fait, voient dans quelles conditions on travaille, etc. Et l'opportunité pour un développeur de contribuer ou de libérer des logiciels, c'est quelque chose d'assez important. L'autre point vertueux qui est pas né de nôtre, c'est que à partir de maintenant, on a globalement une politique où on se dit que ça va arriver assez régulièrement et on construit pas forcément. À partir du moment où on ne construit pas des briques spécifiques à open source, mais qu'on se dit tiens, telle brique, ça a du sens de par un caractère universel de la libérer, ça permet aux gens aussi dès le départ, dès la conception, d'avoir une approche très édition logicielle et donc d'essayer d'adresser un problème assez global. Et donc, de fait, ce qui a un impact direct sur la qualité logicielle.
D'accord. Julien Negros, même question. Donc, alors toi, tu as expliqué que tu es venu à Enercop parce que tu savais qu'il faisait du libre. Donc, je suppose après avoir vu l'interview de David Afagar en 2014, peut-être sur le Framablog, si je me souviens bien. En tout cas, je crois que c'est une première référence, première fois qu'Enercop prend des positions sur le sujet. Quel est l'impact donc en interne? Est-ce que les gens sont contents de faire ça? Est-ce qu'ils ils ont l'impression d'avoir plus de sens parce qu'ils utilisent libre et parce qu'ils peuvent contribuer à du libre? Ou finalement, ça serait un autre type d'informatique, peu importe?
Alors au niveau des utilisateurs tous, pas forcément ceux de notre pôle numérique.
Oui.
Ah oui. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des services. Il y en a qui sont beaucoup moins sensibles, voire presque hostiles. Non, j'exagère, mais qui
on coupera ça au podcast.
Comment ?
On coupera ça alors.
non, ils sont. Mais disons que voilà, c'est clairement pas du tout leur envie, mais d'autres. Plus qui voit très bien l'intérêt et au niveau des valeurs l'adéquation avec les valeurs de la coopérative qui aiment bien l'idée d'avoir un petit peu justement une alternative à d'autres solutions et qui sont très réceptifs à ça. Et puis au niveau de moi je travaille avec trois autres personnes, nous c'est notre moteur. si on travaillait plus avec du logiciel libre, on serait très malheureux. Voilà.
D'accord. Et alors là, c'est équipe interne, et je vais poser la question concernant les équipes externes, entre guillemets, alors les prestataires, parce que tout à l'heure, toi, Julien, tu as parlé notamment d'Easter Eggs. Donc, c'est une volonté de faire appel à des prestataires externes spécialisés en logiciel libre.
Alors, pas partout, mais dans ce que nous, on choisit, oui, c'est au niveau de l'administration système, les services qui seront utilisés par nos utilisateurs et utilisatrices, on donne la priorité au logiciel libre. Là. On est en train de choisir une nouvelle solution de visioconférence, on est en train d'essayer de mettre ça en place avec du logiciel libre. On travaille pour la suite collaborative avec Arabois et donc Easter Eggs et voilà, pour la messagerie, il y a Sogo. C'est la messagerie en général, donc un groupware. Je sais pas ce que c'est de traduction française. Les gestions d'agenda et de messagerie.
De contact, de messagerie, voilà. Etc. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une demande au prestataire de reverser ce qu'il contribue. Si potentiellement, par exemple, il corrige un bug ou il rajoute une fonctionnalité, de le remonter dans la version originale du logiciel.
Ah bah dans ce cadre-là, oui. Alors, je sais que Easter Eggs, ils le font. Et notamment, on a eu des demandes précises. Parce qu'on utilise un gestionnaire d'annuaire qui est redistribué sous licence libre et qui est donc utilisable par n'importe qui, qui est développé par Easter Eggs, à qui on a demandé des développements spécifiques qui donc ont été qu'on profitait au logiciel et dont on a payé pour ça. Et puis pour Collabora aussi, je sais que Arabois contribue à Collabora et on les paye. Et puis Easter Eggs, ils fournissent énormément de services informatiques et eux, ils contribuent énormément au logiciel libre d'une manière générale.
D'accord. Côté Maïf, est-ce que vous faites tout en interne ou vous faites appel à des prestataires externes? Et donc, même question, en fait, quelle est la relation par rapport aux prestataires externes, si vous en avez, notamment l'aspect contribution?
D'une manière générale, je parle essentiellement du monde du développement. L'aspect contribution, quand on modifie un logiciel libre et le reversement, c'est plus qu'une problématique morale. C'est même une problématique opérationnelle. Si vous faites, si vous récupérez un logiciel en version 1, que pour X raisons vous avez besoin de modifier ce logiciel et que vous apportez des améliorations. Si vous ne reversez pas vos contributions, le jour où la version 2 sort, vous avez été obligé de refaire ce que vous avez fait la fois d'avant. Alors que si vous avez fait un certain nombre de si vos modifications, vous les avez redistribuées au logiciel source, ça vous permet directement de bénéficier de vos modifications pour que dans les versions ultérieures du logiciel. Donc c'est vraiment un gain économique et opérationnel important. Donc nous, il n'y a pas vraiment de différence entre nos prestataires et nos développeurs internes, parce que on a aussi une politique d'embauche de développeurs en interne pour pouvoir maîtriser notre système d'information et diluer la maîtrise de notre système d'information. Et donc, d'une manière générale, est totalement encouragé. Dans les développeurs quand il y a matière à, sachant que nos outils de développement, c'est essentiellement des outils libres. On travaille notamment beaucoup sur Java, et Java, c'est un langage informatique open source.
D'accord. Tout à l'heure, Julien, dans son retour d'expérience, parlait du poste de travail. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question concernant la Maïf. Est-ce qu'il est prévu, à un moment ou un autre, d'étudier déjà la migration des postes de travail du personnel de la Maïf sur un environnement libre? Ou est-ce que ce n'est pas du tout prévu pour le moment?
Alors, c'est pas quelque chose qu'on se ferme. Néanmoins, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on a un historique qui est quand même pas neutre, avec un certain nombre de logiciels qui sont basés plutôt sur un environnement Windows, Et donc, de fait, c'est plus compliqué. Et pour l'instant, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on envisage à court terme, en tous les cas. Par contre, tous les gens qui sont directement impliqués dans la technique ont le choix d'avoir un poste Linux et d'utiliser les outils qu'ils veulent. Hein. Donc, et sachant que les suites logicielles, même propriétaires, pour la plupart maintenant sont compatibles avec Linux, ce qui permet d'avoir une adoption progressive et qui permet d'avoir un libre choix par rapport à un certain nombre de nos collaborateurs.
D'accord. Alors, le temps passe vite, on arrive bientôt à la fin de l'échange, mais j'ai une question que je ne voudrais pas oublier. On va commencer par Julien Négros d'Enercop. Quel conseil vous pourriez donner à des structures qui voudraient faire de même, c'est-à-dire qui se posent déjà des questions et qui se diraient, voilà, je voudrais aller vers le logiciel libre, est-ce qu'il y a des points de vigilance, est-ce qu'il y a des conseils, des incontournables que vous pourriez leur donner comme conseil? Julien Négros d'Enercop.
Alors, vaste sujet.
je sais, oui.
Enfin, en plus, nous, dans notre expérience, du coup, c'est très, très lié aux utilisateurs et utilisatrices. Et dans ce cas-là, alors, il faut accompagner beaucoup. Il faut expliquer la démarche aussi, je pense, parce que sinon, là, je voudrais pas être dénigré, mais enfin je trouve que mes collègues ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont très réceptifs en majorité et qui sont tout à fait prêts à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer d'apprendre, et ce qui est pas, c'est pas forcément évident. Donc ça dépend peut-être aussi du public. Est-ce qu'il y a un terreau qui est plus favorable? Moi je pense qu'effectivement à Enercop c'est le cas, et je le constate. Je pense que c'est possible dans beaucoup de structures, à partir du moment où il y a une prise en compte des salariés. Ça vaut pour le monde du travail en général, d'essayer d'être un peu attentif et voilà. Puis faire bien attention, ça c'est, on pourrait le faire plus, attention aux retours qu'on peut avoir.
C'est-à-dire tenir compte des retours des personnes utilisatrices.
Tout à fait, oui.
D'accord. Et de votre côté à la Maïf, Chris?
Je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est effectivement extrêmement important d'accompagner les utilisateurs et de vraiment prendre en compte l'UX du poste de travail et de l'informatique en général. Donc UX, expérience utilisateur.
Oui, merci.
Mais je ne connais pas l'équivalent francophone pour répondre. Après, sur l'utilisation de logiciels libres au sens serveur, je pense que c'est extrêmement important de démystifier un côté, une espèce de crainte de on n'a pas de support, mais s'il y a des bugs, qu'est-ce qu'on va faire, la sécurité, etc., etc. Je pense qu'il y a, là il y a vraiment un mythe autour de ça qui est souvent relativement faux, à savoir que la plupart des logiciels phares open source, les correctifs, ils arrivent très très vite et il y a une communauté qui est très active et donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc je pense que vraiment il faut se lancer et voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer directement sans plus que ça acquérir de l'expérience. Je pense qu'il faut internaliser les compétences les différents sujets et avoir des gens qui sont compétents sur ces points-là. Et sur l'édition de logiciels open source et la contribution, là aussi, je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont en dire. Dans le pire des cas, le problème passera inaperçu. Et je pense que c'est important que toutes les entreprises, notamment les grosses entreprises qui utilisent du logiciel libre, soient contributeurs et soient acteurs forts du logiciel libre.
Bah écoutez, c'est super. Ma dernière question pour tous les deux, on va commencer par Chris. Est-ce que vous avez des annonces à faire, des événements à venir, Maïf?
Oui, Guillaume Rincé, le CTO de la Maïf, fera une keynote au Paris Open Source Summit le 11 décembre prochain. Donc si vous voulez assister à cette présentation, ça sera avec plaisir que vous accueillera.
Ben, on y sera. Donc, le CTO, c'est donc le directeur technique. En gros, ouais. Hein. Et côté NRCOP, est-ce qu'il y a une annonce à faire? Elle est grosse.
Alors, on a jeudi prochain notre prochain SA Deb Boîte. Petit jeu de mots, un petit débat du coup sur good cop, bad cop, donc les réflexions sur, enfin un débat sur le statut de coopérative et ce que ça implique et est-ce que c'est toujours forcément positif d'être une coopérative.
Et donc c'est dans les locaux de NERCOP à Paris, c'est ça?
Alors,
ou
non.
C'est ailleurs?
C'est ailleurs, je vais juste regarder où c'est exactement.
Bon, sinon on mettra les références sur, oui. sur le site de l'émission et donc c'est le jeudi 5 décembre 2019, c'est bien
c'est
ça?
C'est ça, c'est au Grand Voisin, à côté d'Enfer Rochefort.
Au Grand Voisin, d'accord. Bon, Chris, vous serez au Paris Open Source Summit, vous-même?
Ah non, non, malheureusement, moi je peux pas m'y rendre cette année, mais y aura un certain nombre de mes collègues, il y a aussi deux de mes collègues qui ont des slots... pendant le Paris Open Source Summit pour parler machine learning et stratégie open source. Donc malheureusement pas moi cette année, mais vous pouvez voir mes collègues. Et
puis, d'accord, bah, ce sera avec plaisir. Alors nous étions avec donc Julien Négros, donc administrateur d'Enercop, et Chris Woodrow, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maïf. Je souhaite de passer une agréable fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Au revoir.